Ah, mon très cher Arsène,
Un tricheur ancien.
ça va ou quoi?
Ça va et toi?
On est là, là, on est vivant, on tient le coup. Le froid, ça conserve.
On va dire ça.
Voilà. Qu'est-ce que tu portes? Qu'est-ce que tu portes? Dis-nous.
J'ai fouillé un peu mes échantillons, machin. J'avais envie de porter quelque chose de différent aujourd'hui. Je me suis dit, je veux quelque chose qui a un parti pris, mais je sais pas quoi. Et je
Ouais.
porte Ambilux de Marlou.
Ah, d'accord.
Et une petite marque, je sais pas si tu t'avais déjà mis le nez là-dessus.
Non, j'ai jamais senti. Je vois la marque, mais j'ai jamais senti.
Marque qui a comme qui a une direction artistique orientée autour des parfums de peau qui sentent un peu le sale, etc. Et du coup, il y a pas mal de déclinaisons autour de ça.
D'accord.
Je pense que certains diront que ça se ressemble un peu ou enfin, que tout se ressemble un peu, mais en l'occurrence, moi j'aime bien ça. Je trouve que ça fait une vraie direction artistique. On sait où on va. Il y a un
Ouais.
parti pris, c'est cool. Bon, Ambilux, c'est peut-être pas mon préféré. Pour être honnête, ça sent le cumin, le sale, un peu castoreum sûrement, des choses comme ça. L'animal, quoi, directement en tête. Et après, ça devient beaucoup plus proche de la peau et portable. Mais note de tête, il faut quand même.
Faut
Il
être
faut pas
accroché,
s'asperger dans le métro, quoi.
quoi.
Mais.
D'accord. Il faut
Mais.
les mettre avant le pass Navigo.
Exactement. Avant de biper, après ça, tout ira bien. Mais voilà, c'est assez cool. Et peut-être que je ferai un petit avis parfum de ces jours sur l'un de la gamme. À voir.
Ouais, c'est intéressant, ça, c'est bien ça. Moi, j'aime bien les marques qui ont une vraie direction, qui a un trait d'union entre les parfums. C'est important d'avoir une identité. Hein.
Ouais, et là, je pense qu'elle est plutôt marquée, donc ça m'intéresse toujours à découvrir. Et toi, l'ancien,
D'accord.
que portes-tu?
Moi, j'ai remis la main sur Ella, l'artiste. Alors maintenant, on dit Ella Vintage, hein, parce que il me semble
Alors
qu'il a
quel batch,
changé.
quelle année le batch?
Voilà, le batch, le premier, enfin, je suppose. Et tiens, bah d'ailleurs, ça va être un peu le sujet d'aujourd'hui. Sans... Bon, on va pas revenir dessus, mais c'est chez Liquid que j'avais eu la première fois l'échantillon d'Ella. C'est chez Liquid que j'ai découvert. Ah, je suis venu en name dropping aussi. Mais c'était vraiment.
De même de mon côté.
Et d'ailleurs, c'était un échantillon très généreux qui rigolait pas. Donc, c'est bien de le dire. Voilà, et là, l'anarchiste, pareil, bah, on est un tout petit peu animal, léger, léger quand même, tu vois.
Léger, mais
Moi, j'aime
bref,
beaucoup ce parfum, vraiment un parmi
j'adore
mes
ça.
parfums préférés, c'est dinguerie,
Et
là.
pour moi, c'est un parfum qui sent un peu vieux, mais c'est un bon parfum. Mais
D'accord.
peut-être qu'on en reparlera.
Bah, je vais pas contribuer à une image jeune, mais c'est pas grave.
On n'a que 37 ans, n'est-ce pas?
Ouais, exactement, je suis un gamin. On va rester chez Liquid, mon très cher Arsène. C'est ça le plan?
Non, c'est ça le plan. C'est de parler un peu boutique, parler un peu de tout. Et tout ça avec un invité de marque.
On va parler avec ce très cher Thomas Dominguez, donc vendeur légendaire, acteur légendaire de la bloguerie parfum. Thomas, déjà, j'espère que ça va. Comment ça se passe? Le froid?
Oui, ça va bien. Il fait un peu trop froid pour moi, mais je préfère qu'il fasse 10 degrés que 0, donc tout va bien. Et toi?
Effectivement. Moi ça va. Les 10 degrés, je les ai. Avec un peu de bonus même, mais il fait froid. Il
Un
fait
peu de
froid
bonus,
quand
toi,
même.
quand même. Nous, on
Ouais,
souffre. Mais.
non, vraiment, j'essaie, j'essaie, j'essaie. Surtout que j'ai vu des histoires de moins 25, j'ai rien compris. C'est dur. Hein. Thomas, comment te présenter? Si on te lâchait comme ça, là, c'est quoi un peu ton parcours? Raconte-nous tout ça, là.
Ok, alors, à la base, mon titre, même si ça fait pompeux, je suis psychologue environnementaliste.
D'accord.
Qu'est-ce que c'est qu'un psychologue environnementaliste? Est-ce qu'on prend des plantes et on les analyse? Non, c'est que la psychologie analyse souvent les gens, mais rarement dans leur environnement.
D'accord.
Le psychologue environnementaliste, c'est comme un psychologue social. Il va étudier le comportement des gens influencés par leur environnement social, comme les psychologues sociaux, ou physique. On est quand même moins sympa quand on est dans le métro ou quand on est dans un centre commercial qui est blindé de monde que quand on est avec ses amis, on n'a pas exactement la même personnalité. Bah, c'est ce genre de comportement-là que les psychologues environnementalistes essaient d'étudier. Donc ça, c'est ce que j'ai comme titre. Waouh!
D'accord.
Comme on est
Bon.
en France et que je l'ai eu il y a 25 ans et que déjà il y a 25 ans, les sciences humaines marchaient pas vraiment,
Ouais.
j'ai travaillé pour avoir un toit et payer un loyer pendant 7 ans dans une compagnie d'assurance vie.
Ok. D'accord.
Alors, ce n'était pas le moment le plus vibrant de ma vie, je dois t'en dire. Même si c'était formateur, un peu intéressant et utile, mais ça ne me correspondait pas vraiment. Et quand je m'ennuyais beaucoup en assurance vie, j'avais déjà un tic, c'est que je consommais beaucoup de parfums. Beaucoup
D'accord.
de parfums. Ils faisaient des ventes privées aux salariés, comme ça arrive souvent dans les comités d'entreprise. Et je pense que ça avait lieu 2 fois par an. Et je pense que je consommais entre 6 et 8 flacons tous les 6 mois.
C'est le meilleur
Wow.
acheteur de
Des 50
l'entreprise.
ou des 100 ml. Ouais. Ah non, non, je ne partageais pas. Non, c'était tout ça pour moi. Et c'était quand même à peu près la consommation que j'avais. Donc, j'évacuais un 100 ml tous les mois, à peu près. Voilà. Et ça, c'était le grand moment de bonheur quand même dans ma compagnie d'assurance vie dont j'étais à la nom. Là, vraiment, j'ai kiffé. Je me parfumais le matin, je me parfumais à 13 h quand je revenais de pause déj, je me parfumais l'après-midi en partant et je me parfumais le soir avant de me coucher, déjà.
Fort.
Est-ce que tes collègues te détestaient?
Eh bien non, c'est le paradoxe. Je pense qu'il y a un truc de personnalité aussi, c'est ce que je dis souvent aux gens. Quand je vois qu'aujourd'hui, mes clients parfois ou les gens avec qui je discute se mettent un spray, ont l'impression, oups, d'envahir la terre entière. Bah vraiment, j'en mettais pas mal. Et mes collègues me disaient, je me rappelle très bien de certaines d'entre elles qui me disaient, j'allais aux toilettes quand même pour éviter les phénomènes de saturation sur un open space. Et elles me disaient, mais Thomas, pourquoi tu t'emmerdes à faire ça? Franchement, c'est trop agréable. Quelqu'un qui sent bon, c'était super. Alors, terre d'Hermès, infusion d'homme, qui aujourd'hui s'appelle infusion cèdre vétiver ou iris vétiver, ou je sais pas quoi, aidait peut-être. Peut-être que j'avais bon goût, mais pourtant, je dégazais, j'en mettais vraiment des tonnes.
Ah ouais, hein. Mais
Mes
aussi,
collègues
ça
adoraient.
dépend ce que tu mets. Faut pas.
J'allais dire. Je mettais des choses belles, mais en
Ouais,
même temps,
voilà.
c'était facile de bien se parfumer il y a 15 ou 20 ans. Il devient plus difficile de bien se parfumer aujourd'hui.
Ah.
En tous les cas, mes collègues adoraient, mais je me parfumais beaucoup. Un jour, en sortant du sport, je vais donc m'acheter un flacon parce qu'il m'arrivait quand même d'acheter des flacons dans les circuits habituels, Sephora, etc. Et j'avais un ami aussi, mon meilleur ami à l'époque, qui était directeur commercial pour des magazines masculins. Donc, il recevait des flacons
Ouais.
en avant-première, puisque c'était les flacons qui allaient être peut-être les couvertures de publicitaires de ces magazines,
Ouais.
d'accord? Par exemple, j'ai eu One Million 8 mois avant qu'ils sortent. Et ce truc-là était un monstre pour les compliments. C'est-à-dire que
Ah
c'était
oui.
monstrueux, je me rappellerai toujours, que dans le bus, des dames me disaient « Qu'est-ce que vous portez, monsieur? Ça sent trop bon. » C'était One Million, voilà.
Okay.
Donc, je consommais beaucoup de parfums parce que j'avais gratuitement en plus, et je continuais à en acheter un peu. Donc, il m'arrivait d'aller chez Sephora et d'en acheter ou de découvrir des nouveautés. On ne sait jamais, peut-être qu'il y a des trucs qui pouvaient me plaire. En 2010, milieu 2010, je découvre Bleu Chanel,
Ouais.
femme qui essaie de me le vendre. Elle me décrit un parfum sensuel et élégant. Moi, j'ai l'impression d'avoir un Egoist Platinum que je portais quand je sortais au Queen, mais seulement en été quand il faisait 30 degrés et que donc je cuisais pour me rafraîchir. J'ai l'impression de porter un Egoist Platinum ou un peu une allure homme sport,
Ouais.
mais je ne comprends pas le truc du chic et élégant. Je trouve qu'il y a d'autres trucs qui sont plus chic et plus élégants, et même chez Chanel.
Ah oui.
Mais c'est la première fois que je me retrouve à faire une dissonance cognitive. Quelqu'un me dit un truc que je ne suis pas d'accord avec, alors que la personne qui me le dit est plus experte que moi. Je rentre chez moi le soir, ça m'interpelle. On est en 2010, c'est l'époque des blogs et
Ouais.
de certains sites qui commencent à émerger. Je me retrouve sur des blogs et sur la page du forum de discussion doparfum.com. Et je découvre que Jeanne Doré conclut son article sur Bleu en disant que c'est pas moche, mais c'est un peu comme partir en week-end avec un mec en polo bleu marine qui est assez sexy. Il est assez sympa, il est assez cool, mais au final, on s'emmerde dimanche après-midi devant le poulet et les patates. Je résume un peu et je rajoute un peu ma sauce, mais c'est quand même ça que ça dit globalement. Je trouve ça dément. Et des gens réagissent en plus dans les commentaires en disant la même chose, en disant mais Jeanne, c'est une aqua ultramarine de allure, c'est pas tellement intéressant, c'est quand même assez ennuyeux, c'est pas moche, mais c'est pas beau. Voilà. Je me dis, waouh. Déjà, un, Thomas Dominguez, tu penses pas des bêtises contre la demoiselle. D'autres personnes pensent comme toi, donc t'es pas fou. Mais deux, d'autres sont capables de mettre ça en mots mieux que toi. Et là, je trouve ça dément. Bon, je me fais beaucoup chier en assurance vie. Je trouve ça dingue. Je commence à me plonger dans les blogs et dans les pages de parfums. Au bout de 3 jours, je laisse des commentaires qui sont a priori intéressants. Les gens étaient bienveillants. Je n'ai pas reçu de tomates ou de pierres. Les gens m'ont hyper bien accueilli, alors que j'étais parfois peut-être un peu à côté de la plaque quand même. Mais les gens étaient hyper sympas. Et Jeanne m'envoie un message au bout de quelques temps en me disant assez rapidement, quelques jours, bienvenue d'abord. Vos commentaires sont bien, mais vos commentaires sont longs, mais ce ne sont que des commentaires. Je pense que ce serait plus valorisé si vous écriviez avec moi, pour moi, sur le site, et que ce soit des articles. Et c'est comme ça que 6 mois après, parce que tout ça prend du temps, j'assiste donc au lancement des parfums avec mon meilleur ami à l'époque. Je sens pas mal de trucs, je fais ma culture olfactive là et j'écris mon premier article sur Eau-Parfum qui sera Anteus. Sur Eau-Parfum, il y a un petit chapeau. Les petits chapeaux traduisent quelque chose qui est un peu un état d'esprit. Bah, le chapeau d'Anteus, c'était anti-bleu parce que je trouvais ça drôle.
Ah ouais,
Donc voilà,
pas mal.
sur comment faire un parfum qui est un peu aussi un peu décontracté parce qu'Anteus, c'était pas non plus le symbole, c'est comme une fougère, c'est aussi un peu savonneux, un peu sport quand même, mais que ça a quand même sacrément plus de burn que bleu et c'est quand même beaucoup plus passionnant. Voilà. Et donc j'ai écrit sur Eau Parfum pendant 4 ans et pendant 2 ans en étant le rédacteur, pas en chef, c'était Jeanne Doré, mais principal sur le site. Ce qui m'a permis, en tant qu'autodidacte, en sentant des parfums encore plus et des matières, ce que je ne faisais pas avant, bah, d'augmenter encore ma collection de parfums qui devient délirante, hein, qui est devenue délirante entre-temps, et de me dire que j'avais vraiment plus envie de travailler dans ce domaine-là que de travailler dans l'assurance-vie. En tous les cas, ça, c'est clair.
Étonnamment, étonnamment.
Étonnamment.
Mais ça fait 4 ans d'assurance vie pendant qu'il se passe tout ça.
2 ans d'assurance vie dans la partie. Non, 1 an d'assurance vie encore, 1 an un peu à l'arrache. Et en 2013, j'ai mon premier job
Ok,
à la
d'accord.
Centrum du Printemps Haussmann, à l'époque où elle était, dans le bâtiment qui n'est pas caché là-bas derrière, celui qui était exposé sur le boulevard Haussmann, au rez-de-chaussée.
Ok.
Ça, c'est du parcours flash. Mais tu sais, là où il y a la vie, généralement, c'est là où on a envie de se diriger. Tu vois, quand tu sors d'une assurance vie, malgré le nom, tu vas là où ça bouge, en fait, tout simplement. Là où ça te fait vibrer.
Bien sûr, il y a un truc en plus
Oh.
qui est très moche dans l'assurance vie. Je rebondis sur l'idée de la vie parce que c'est tellement vrai. Les assurances vie fonctionnent là-dessus parce que c'est normal de fonctionner là-dessus, sur ce qu'on appelle les tables de mortalité. Donc, c'est
Là.
effectivement, malheureusement, l'opposé de la vie, c'est-à-dire que les primes d'assurance sont versées en fonction des règles statistiques sur une population suffisamment nombreuse pour savoir combien on doit verser sans que ça ruine la compagnie d'assurance.
Ouais.
Bref, donc oui, c'est effectivement, ça s'appelle assurance vie, mais un peu l'opposé de la vie quand même. Bref.
Bah oui. Puis c'est bien, le matin, c'est une ambiance.
Le truc qui est sympa quand on
Ouais.
fait un métier un peu bah, plus administratif, plus bureaucratique, c'est qu'on arrive à avoir des gens qui peuvent être hyper sympas quand même, parce que les gens sont
Ah
plus
bah
vivants
oui.
qu'on l'imagine, donc ils arrivent à recréer une ambiance un peu sympa, je
Ouais,
trouve
c'est
quand
vrai,
même.
c'est vrai.
J'avais des collègues cool quand même.
Et donc, début du métier dans le parfum. Et après, ce qui t'a mené petit à petit jusqu'à chez Liquid?
Oui, exactement. Chez Liquide, il y a depuis 6 ans. Dans le magasin, dont je suis le responsable du magasin depuis 6 ans. Et avant
Ah.
ça, en 2013, donc un an de CDD pour un Intertrade Europe, qui est un distributeur qui vendait des marques comme, les gens ont oublié cette petite marque, mais une marque de Stéphane Imbert-Lucas d'il y a plusieurs années, Nez à Nez, André Hamac.
Est-ce que les capuchons étaient dorés ou pas?
Non, pas encore.
Pas
C'était des
encore.
flacons assez sobres, blancs, avec un petit capot noir. Ce n'était pas les flacons Soud qui était sa première marque. C'était vraiment une marque qui plaisait un tout petit peu aux Français. On en avait à peine parlé sur Eau Parfum parce qu'il y avait déjà beaucoup de lancements. Mais c'était une marque plutôt intéressante pour le coup, en plus. Assez jolie, qui jouait dans la sobriété, mais qui
Ok.
malheureusement, comme dans la concurrence, n'a pas forcément survécu.
Ouais.
Donc les gens ne se rappellent pas que tout. Oui, la parfumerie, c'est comme l'humanité, ça émerge sur des cimetières où des marques essaient de survivre et d'autres disparaissent quand même, déjà.
Incroyable. Ouais.
Nez à nez, il y avait André Hamac, Boa de Tia de Victorious et une toute petite marque qui, elle, pour le coup, n'est vraiment, vraiment pas encore au cimetière. Un tout petit truc de rien du tout, un Azomato.
Ah
Voilà.
oui.
Toute petite
Incroyable.
marque, pendant 1 an. C'était hyper formateur, c'était vachement bien. Et ça permettait de recaler avec ce qu'on vous raconte. Ah, les Moyen-Orientaux qui débarquent, qui arrivent dans un magasin, qui font des paniers de dingue. Ça permettait de connecter le réel et la théorie qu'on lisait, que je lisais, qu'on raconte sur les forums de discussion, sur les réseaux. Bah oui, c'est vrai, ça existe. Et c'était ma première vente, arrivée au bout de 20 minutes au Printemps Haussmann. Des gens, une famille du Moyen-Orient arrive et je fais une première vente de 700 euros de Saoud. Voilà, ça c'est fait. Et puis ensuite, je ne vends plus rien pendant 2 jours. Mais donc, ils existent. Les Moyen-Orientaux qui dépensent beaucoup existaient un peu moins, existent encore un peu pas mal du tout. Voilà.
Ouais, bien sûr.
Après cette année-là, j'ai recherché à nouveau un travail pendant quelques mois. Et puis, pour dépanner, parce qu'ils avaient un espace pas assez visible, qui je crois est toujours le même aujourd'hui, j'ai été embauché pour un pop-up qui servait de zone de transition des éditions de parfums Frédéric Malle au Bon Marché vers décembre 2014.
Ah, ok.
Ce qui est assez drôle, j'avais rédigé la news de rachat par Estée Lauder Companies un mois avant pour un parfum, l'actu. Et un mois après, je suis recruté par eux parce qu'il faut absolument augmenter le chiffre d'affaires. Parce qu'un ancien espace, peut-être de maroquinerie, je ne sais pas, qui a été attribué à Frédéric Malle, est un peu trop dans une contre-allée, pas suffisamment plein centre. Résultat, les gens ne trouvent pas le magasin Frédéric Malle. Le chiffre d'affaires n'est pas à la hauteur des espérances d'une implantation en bon marché. Il faut augmenter le chiffre d'affaires. Ils décident d'installer une double exposition avec un pop-up en plein milieu de la Trémie à l'ancien espace d'Hermès et je deviens responsable de ce petit espace-là. J'étais recruté pour un mois et j'y resterai 2 ans et demi, globalement.
Ah ouais, incroyable.
Okay. Donc
Incroyable.
les petites éditions de parfum Frédéric Malle.
Ouais.
Petite.
Et je me rappelle de leur endroit, je me rappelle très bien de ce petit spot-là, dans le Bon Marché. Moi, j'étais parti. Je crois que c'est comme ça que je les ai connus, hein. Ouais, c'est comme ça que je les ai connus, moi, Frédéric Malle. C'est au Bon Marché.
Parce que c'était bien visible. En fait, arriver de. Parce que cet espace dont on parle, il est situé quand on a l'entrée du magasin, l'entrée principale qui est sur la rue de Sèvres, juste derrière soi. Donc il faut traverser la première espace avant, en plein milieu.
Ouais.
Mais quelle que soit l'allée où on arrive, plutôt si on arrive sur l'allée droite, qui est la plus connectée dans Paris quand même, bah on tombe pile poil en face de Frédéric Malle. Et à gauche, c'était Tom Ford.
Exactement, exactement. Mais moi, je les ai connus juste avant, tu sais. Il y avait en face de Tom Ford, il y avait un petit stand Memo. Pas directement en face, mais juste après Memo. Et en face de Memo, il y avait Frédéric Malle. Et c'était un tout petit stand.
J'ai
C'était un tout
beaucoup
petit
vendu de
stand.
Memo et j'ai encore plus vendu de Lutèce. Les trois marques qui ont été là sur le pop-up, c'était, si on a donc l'entrée derrière soi,
Ouais.
Frédéric Malle avec ses flacons rouges qu'on ne peut pas rater pour qu'il y ait un impact,
Ouais,
ce que m'a dit
exactement.
monsieur lui-même. Pourquoi le rouge, j'aime ça et puis ça se voit. Donc voilà, bah ouais, tant qu'à faire.
D'accord.
Donc il faut être malin. À droite, il y avait Memo et à gauche, il y avait Lutèce.
Ouais.
Ouais, exactement.
Incroyable. C'est l'époque.
Je repensais à ça, aux boutiques Frédéric Malle qui étaient pour moi des bureaux, juste un petit bureau avec une dame qui t'attendait impatiente, que tu rentres dedans. Et ça faisait peur, je me souviens.
T'avais peur,
Rentrer
hein?
là-dedans et t'as quelqu'un qui t'attend déjà. Quand
Moi,
j'ai commencé à m'intéresser au parfum, je me suis dit, mais ça va
je
pas.
peux penser beaucoup de mal de Frédéric Malle, mais vraiment, j'ai toujours aimé l'expérience client avec.
Après, t'es bien accueilli, mais
Ouais,
juste.
je trouve ça mortel, vraiment.
Ouais, c'était au Bon Marché où. Je sais plus où il y avait un petit bureau qui était leur boutique où
Crois que
tu
c'est ça,
avais.
hein, sur Bon
Tu as
Marché, ouais.
souvent un petit bureau. Si tu avais un petit bureau au Bon Marché, c'était Marie-Annick, probablement une petite dame, vu que tu as l'air de la raconter, qui est partie à la retraite il y a quelques mois à peine. Je sais que pas mal de gens se sont plaints d'une forme de froideur, mais c'était la froideur qui était imposée. J'ai été son formateur pendant un an et demi. Dans le manuel de formation, c'est précisé. On ne doit pas donner le sentiment qu'on envahit les gens. Il a une éducation qui est une éducation plus que bourgeoise, aristocratique. Il y avait
Ouais.
cette idée qu'il ne fallait pas donner le sentiment. Alors, tu vois, Arsène, ça, c'est un peu casse-pied parce qu'effectivement, on donnait l'impression d'attendre les gens, alors qu'en fait, on devait justement donner pas cette impression-là et on devait se trouver un peu d'occupation pour que les gens, s'ils avaient envie d'eux, on puisse aller vers eux. Mais cette forme de distance qui était maintenue a souvent été prise comme du mépris, être hautain, etc.
Ouais.
Non, c'était plutôt une forme de distance pour laisser les personnes venir à soi sans justement être envahissant. Une certaine vision du luxe et d'une certaine appréhension de l'accueil, un peu qu'on a dans certains palaces, qui se veut distante. C'est
Ouais.
pas de la hauteur. C'est en théorie l'opposé de ça. Je ne dis pas que les gens qui sont en magasin sont toujours contents de voir les gens débarquer et certaines personnes débarquer, bien sûr. Je ne dis pas ça non plus. Mais
Non,
en
non,
revanche,
mais globalement, c'est
globalement,
ça, ouais.
ouais, chez Mal, l'expérience, ça voulait laisser une place à l'idée que la personne puisse rentrer dans un décorum qui, en plus, est un décorum un peu intimidant avec ses espaces architecturaux. Lui qui a fait des études de beaux-arts qui sont imposants et qui peuvent mettre les gens à distance. Tous ces angles droits, ce verre. Ces bois, même si aujourd'hui beaucoup d'espaces se sont énormément architecturés, bah, ils pètent un peu leur race quand même, les espaces Frédéric Malle. Ils sont un peu dingues quand même. Ils sont architecturalement extrêmement impactants
Ouais,
quand même.
oui. C'est spécial. Hein, ouais.
Non, mais c'est hyper cool d'avoir les backstage de cette expérience. Cette
Un
première.
ami qui est parfumeur aujourd'hui, il détestait de rentrer à Grenelle, par exemple. Il a refusé un jour, on faisait les sniffatons au moment où je me formais sur le parfum il y a 12 ans, 13 ans. Je ne sais pas si je dois donner son nom, mais il n'aimait pas la boutique de Grenelle, donc il a refusé de rentrer dedans quand on faisait un sniffaton parce qu'elle l'intimidait, elle le mettait mal à l'aise.
Ah ouais, c'est
C'est
marrant
pour vous
ça. Bah,
dire.
je n'étais pas seul du coup. Plutôt
Non.
ravi de l'entendre.
Formulaire, ça.
Mais ça, du coup, c'est des sujets que tu travailles chez Liquid,
Oui.
la façon d'accueillir, etc., dans la boutique actuelle?
Oui, normalement, et là, ça va nous permettre de dérouler peut-être, d'avoir d'autres choses qui sont les évolutions des gens qui viennent aussi dans les espaces.
Voilà.
Chez Liquid, je suis responsable du magasin, je suis aussi responsable de formation, donc je dois essayer d'apporter pour d'autres marques, pour une partie des marques qui sont vendues chez Liquid, à d'autres, un peu d'aide, quoi, une autre vision, un regard pour essayer d'aider à la vente. Chez Liquid, j'ai été recruté avec l'idée qu'on faisait un conseil personnalisé, extrêmement abouti, qu'on passait 30 à 45 minutes, ce qu'on appelait les dégustations, et que ces dégustations permettaient d'aboutir à terme probablement, on espérait, passer un bon moment, discuter avec quelqu'un, avoir quelqu'un qui vous entend et qui vous comprend, aboutit à terme on l'espérait, à suffisamment de ventes pour que le modèle soit efficace. Donc des tabourets étaient posés devant le bar, on offrait le café. À une époque, ils emportaient des tabliers. Je trouvais que les tabliers étaient devenus un peu caricaturaux de toutes les marques qui essaient de faire croire qu'elles sont des marques de niche indépendantes. Quand on a revu une idée un peu trop souvent, on peut l'oublier. Mais en tous les cas, donc il y avait des tabourets, on offrait le café, on parlait parfum, 30 à 45 minutes. Le psychologue environnementaliste, il observe son espace et il vient potentiellement avec des hypothèses, mais ces hypothèses ne doivent jamais empêcher la vraie analyse ou la vraie observation des choses. La première méthode scientifique de toutes les sciences, c'est observer. Regardez. On constatant parfois un phénomène suffisamment fréquent. L'hypothèse du café philo, autrement dit, parce qu'il y a un peu ce truc qui a existé beaucoup à Paris à un moment, et les derniers ont fermé il y a 2 ans, je crois, 2, 3 ans peut-être maintenant. On passe un bon moment, on discute de parfum, on échange. En plus, je suis passionné de parfum, je le reste quand même. Papoter, et à l'issue de ça, avoir présenté des choses qui sont suffisamment intéressantes pour les vendre, je dois dire que malheureusement, je ne dis pas que ça n'a pas du tout marché, je ne dis pas que ça ne fonctionnait pas un peu, ça ne fonctionnait pas suffisamment à l'aune de l'effort fourni par la personne qui, quand elle est en train de parler, quand elle est en train d'essayer de capter l'attention d'autrui et d'essayer de comprendre ce que la personne souhaite, n'a pas exactement obtenu les résultats voulus. J'ai donc dans un premier temps arrêté le café de serveur de café, retiré les tabourets. J'ai malheureusement appliqué une règle jusqu'à un certain niveau acceptable qui est quand on fait de la psychologie environnementale, il y a ce qu'on appelle les espaces sociophiles et sociophobes. Les espaces sociophiles, c'est le cas typique de Starbucks, vous avez ces poufs très profonds, très moelleux pour vous enfoncer dedans, qui fait que vous restez extrêmement longtemps, ou alors vous mettez des chaises hautes partout, voire pas de chaises, parce que ça incitera plus de mouvement et à être plus dynamique. J'ai en partie, mais pas totalement, sociophobisé un peu l'espace, c'est-à-dire transformer un espace qui était un espace un peu éteint, qui était presque un espace de somnolence, de discussion thérapeutique autour du parfum, ou psychologique pour les gens, parce que comme le parfum renvoie beaucoup à ce qu'on ressent, à une image, à des connexions qui sont un peu étonnantes, les gens, et c'est normal, se retrouvent beaucoup aussi dans une phase un peu contemplative. Et tout ça ouvre aussi beaucoup à une phase de révélation de soi, de discussion de soi. Ça peut être anecdotique, et ça c'est bien. Ça peut être aussi un peu profond, et parfois les espaces se confondent un peu. Donc on se retrouvait parfois un peu à psychologiser les gens plus qu'il n'est souhaitable.
Effectivement.
Enlever les chaises. Être aujourd'hui, quand on fait les conseils avec la personne qui va certainement devenir le responsable après moi du magasin, on est quasiment plus derrière le bar. Il y a un bar chez Liquid, pour ceux qui ne le visualisent pas, il y a un bar avec les parfums exposés derrière le bar. Et l'idée, c'était en fait, dans le concept, de refaire les épiceries à l'ancienne, c'est-à-dire les épiceries libre service, parce que les épiceries sont devenues des épiceries libre service. Et Bernard Arnault a découlé les épiceries libre-service, les hypermarchés, qui sont devenus des supermarchés puis des hypermarchés, où chacun choisit directement des produits accessibles à la main qu'il peut tester par lui-même sans avoir d'intermédiaire. Il a décliné la formule chez Sephora, qui s'est déclinée dans plein d'autres chaînes de parfumerie, où l'idée, c'est couper le vendeur, couper le conseil, avoir des produits qui ne sont pas les mêmes pour pouvoir y accéder directement et les vendre directement plus facilement, moins chèrement, peut-être de manière moins qualitative pour les produits, mais on y reviendra plus tard. Et donc, chez Liquid, le gérant de l'espace voulait, David, souhaitait avoir un espace où, au contraire, on ait de la qualité avec un vrai relationnel humain et on remet la fonction conseil en avant. Le problème, c'est que donc, ça aboutit trop souvent au fait qu'on oublie que c'est un magasin, qu'on est là pour vendre et qu'on n'est pas dans une fonction muséographique uniquement. C'est un terme que j'ai souvent utilisé devant Arsène. Il y a une part de culture du parfum, et c'est celui qu'il a beaucoup partagé sur Au Parfum qu'il pense vraiment, mais des espaces de vente sont aussi des espaces qui doivent, à un moment, sans épuisement de la personne qui est là ou des personnes qui sont là pour faire les conseils et faire la transition et le lien, sans qu'ils s'épuisent, et en faisant du chiffre d'affaires quand même.
C'est vrai que c'est
Ça
quand même un
surtout.
sacré sujet chez Liquid. De se rappeler que c'est un magasin et que c'est fait pour vendre, et il y a quand même un sujet sur le parfum qui. T'as envie de parler, envie de discuter, mais il faut vendre derrière. Et je me demande comment chez Liquid vous faites, vous adaptez à ce paradoxe.
En fait, on laisse les gens jouer davantage. Ce que j'ai fait sur à peu près 5 ans, c'est que, en plus, voyant arriver toute une nouvelle clientèle qui se connecte, non pas sur des blogs, mais qui regarde des vidéos, on voit des gens aujourd'hui dont les parents arrivent. C'est souvent le cas avec des parents étrangers. Mais depuis 2 ans, je pense, on voit ce phénomène où des parents étrangers américains, par exemple, arrivent avec des enfants qui ont 14 ans, 15 ans, et vous disent, il adore les parfums. Et alors, ça peut être très bien, mais on en parlera à un autre moment. Le truc, c'est que face à ce flux qui monte, qu'on ne peut pas s'empêcher de vouloir absorber, bah, notre idée, c'est tout simplement qu'on n'est plus derrière le bar. Donc, il n'y a plus cette relation de psychanalytique. On est sur le côté, on vient, on échange un peu avec les gens. Mais ce qu'on a fait tout simplement, c'est qu'on a rendu plus de la moitié de la sélection des parfums aujourd'hui accessible aux gens, dont une partie sur le bar. Le bar n'est plus vide devant l'occuper par la dégustation. La dégustation est faite par des gens parce que beaucoup de gens demandent aussi à sentir des choses par eux-mêmes. Ils arrivent de plus en plus avec des listes. Alors, ça a toujours existé, les listes. Mais la quantité de personnes qui arrivent aujourd'hui dans des espaces de vente avec des listes dans la main, des listes très longues dans la main, sont devenues hyper importantes. Par deux phénomènes, les touristes qui se promènent et qui viennent dans des espaces où ils trouvent les objets qu'ils n'ont pas ailleurs, qu'ils ont découverts sur Fragrantica ou que sais-je, ou dans des vidéos. Et aussi parce qu'il y a justement ces vidéos pour la clientèle locale qui créent cette appétence pour les parfums. J'ai vu des jeunes avoir des réactions devant la découverte de certaines marques parce qu'ils les idolâtraient, un peu comme des enfants qui ouvriraient des cadeaux à Noël, quand même. Dans des réactions un peu étonnantes, quand même. Truc un peu orgasmique, quoi. Dans la découverte. Et cette marque. Truc un peu dingue, quoi. Le chien à qui on donne l'os qu'il adore voir, mais auquel il a droit qu'une fois par mois, quoi. Oui, ce truc de dingue. Voilà.
Ah, c'est dur, c'est dur.
Mais ça, c'est vrai que ce sujet réseaux sociaux, hype et boutique, moi j'avais été choqué un moment en venant chez Liquid d'avoir une personne qui rentre dans la boutique et qui dit est-ce que je peux sentir directement un parfum précis qu'il ne connaissait pas, dont je tairais le nom de la marque coréenne, et qui l'a senti, il l'a acheté dans la foulée. On sentait que c'était dirigé sur les réseaux sociaux à 1000%, surtout parce que c'était cette marque précise. Du coup, votre boulot à ce moment-là, vous ne le faites pas à 100%, juste
Alors, moi je vais être
légèrement,
honnête.
quoi.
En tant que responsable d'un magasin, qu'on vienne pour une marque coréenne avec 4 lettres qui reproduisent l'acronyme de la chose, peut-être, qui aime bien aussi les mêmes couleurs que Frédéric Malle en partie, peut-être. Que des gens viennent et aient envie de sentir un parfum, il y a une partie de toi en tant que conseil dans l'échange. Quand on fait un travail de conseil en parfum, l'idéal, c'est d'arriver à bosser un peu de manière pas stéréotypée, en apportant notre vraie expertise, notre vraie capacité de compréhension d'autrui, et que ceci aboutisse à la fin, souvent dans un deuxième temps, parce que les gens ont besoin d'un peu de temps de réflexion, voire dans un troisième temps, mais pourquoi pas dans le premier, hein, mais que ça aboutisse à une vente. Toutefois, il y a deux choses qui sont compliquées. C'est passer beaucoup, beaucoup de temps avec quelqu'un en s'épuisant et ne pas faire de vente. Mais quand on le fait une fois que la personne est cool, il n'y a pas de problème. Quand on passe beaucoup de temps à le faire et qu'on s'épuise, on a un peu l'impression de se faire avoir et de s'épuiser pour rien. Mais de la même manière, ou à l'opposé plutôt, ne pas faire de conseils, voir le produit être senti puis disparaître, on trouve ça un peu dommage pour la partie parfumerie artistique, créative, qui nécessite autre chose qu'une découverte immédiate qui aboutit à un achat. Mais comme on a fait beaucoup de conseils qui ne se terminent pas par une vente, j'ai envie de te dire, Arsène, oh bah super, pour une fois que ça arrive, très bien.
Ça
Mais
équilibre
c'est
la
vrai,
balance.
ça arrive assez peu ce que tu avais vu, je te l'avais dit. Ouais, ça peut arriver. Oui, il y a un phénomène d'appel d'air qui se termine par des ventes. Mais j'en parlais à une amie qui est fan de parfum aussi, qui lisait au parfum beaucoup il y a 15 ans et qui a ouvert son espace de restauration du midi. Et elle me disait qu'elle constate ça beaucoup dans les échanges sur les réseaux sociaux pour la nourriture. Les gens disent plus que c'est bon, que c'est sympa, ils vous disent, il faut que je teste. Arriver à vendre un parfum d'une marque coréenne ou autre, parce que la personne est venue par les réseaux sociaux, mais que ça se termine par une vente, c'est une exception. Ce que ça crée souvent, c'est un phénomène depuis 1 an et demi de gens qui sont capables de vous dire précisément, dans le magasin, la première affiche que j'ai créée pour ne pas perdre de temps en se fatiguant, en répétant la même chose parfois 5 fois par jour, c'est que j'ai créé une affiche de nouveauté, comme chez Sephora. Tu as tes nouveautés, tu crées une affiche de nouveautés, tu présentes des pots dans lesquels tu peux sentir les nouveautés. C'est l'une des étapes d'adaptation du magasin dans un mode plus les gens se prennent en charge par eux-mêmes. Je voudrais sentir les nouveautés sont exposées ici, je vous laisse les découvrir tranquillement. S'il y en a une qui vous interpelle, je peux la reparfumer puisque là, vous avez les notes de fond. Ça permettait de décongestionner un peu la fonction conseil qui ne sert pas à grand-chose. Je viens juste pour la curiosité des nouveautés. Sauf qu'on est passé dans une deuxième étape avec TikTok. Probablement, principalement, depuis 2 ans, les gens ne demandent pas à sentir des nouveautés. Ils savent quelle marque, et Instagram dans les pages de communication officielles des marques aussi, hein, quand même. Et les gens viennent en disant, je viens sentir telle nouveauté de telle marque. Ils sont au courant, au jour près, du moment où la nouveauté arrive.
Mais est-ce qu'ils ont déjà un avis avant? Tu trouves qu'ils sont biaisés à quel point? Moi, je me
Ouais,
rends pas compte.
formaté.
Ils savent s'ils vont aimer avant de sentir ou pas?
C'est intéressant ce que tu poses comme question. C'est hyper intéressant parce que je n'avais pas pensé comme ça, mais c'est bien. C'est un truc qui est hyper triste, je trouve, c'est qu'ils ont cette attitude boulimique de consommation un peu dingue, où en fait, quand tu es boulimique et que tu te gaves, bah tu n'aimes pas ce que tu es en train de manger. Tu te gaves uniquement. Donc il y a un problème à prendre du plaisir, qui est un peu un truc un peu surprenant. Avec mon collègue principal, qui va devenir le responsable du magasin, on n'hésite plus aujourd'hui à leur dire, vous êtes en train de sentir beaucoup, vous êtes en train de vous gaver de parfum, mais est-ce que vous arrivez à prendre du plaisir? Maintenant, si vous avez envie de vous gaver, faites. Mais c'est bien de renvoyer les gens à un truc tout bête. J'en ai rien à foutre de tester tel resto parce qu'il est tendance. Ce que je veux, c'est kiffer ma bouffe. C'est kiffer mon moment avec mes amis, c'est kiffer mon plat. Ce que je veux, c'est que je veux être très primaire. Je veux que ça me fasse du bien. Je veux jouir de l'objet que j'ai. Je veux avoir du plaisir. Dans le monde à chier qu'on est en train de nous faire, et dans lequel des préoccupations vont arriver qui ne vont cesser, je crains malheureusement. Je ne vais pas faire de sociologie de ce qui va évoluer. Mais je suis à peu près convaincu que les choses ne vont pas s'améliorer par œuvre magique. Les choses ne vont faire qu'empirer. Pour des pays qui ont découvert qu'ils ont cru qu'ils étaient en stabilité, hein, qui étaient les pays de l'Occident blanc, qui découvrent qu'en fait, non, tout le monde va basculer ce que d'autres pays savaient déjà très bien dans le passé. J'interromps là mon petit laïus politique. Le monde devient suffisamment triste, gris, chiant et angoissant pour qu'on ne prenne pas juste du plaisir là où on peut le prendre. Le parfum peut en faire partie. C'est pour ça que j'ai fait ma reconversion dedans. Et Arsène, non. En fait, les gens viennent se gaver de trucs, mais pour sentir des trucs. Je n'ai pas l'impression qu'ils kiffent leurs trucs. Malheureusement.
Nous, on a quand même remarqué depuis des années qu'ils sont formatés. Tu peux pas aimer sans avoir senti, on est d'accord. Mais on a plus l'impression que, tu sais, il y a toujours ce biais cognitif de confirmation. Donc ils viennent et ils ont juste besoin de confirmer le format qu'ils avaient reçu, quoi, tu vois. Donc ils arrivent, tac, c'est bon, ouais, c'est bon. Et comme tu dis, il y a aucun kiff dedans, ça c'est clair, tu vois, il y a juste une confirmation.
Il y a deux choses, ouais. Ouais, il n'y a pas de kiff et il n'y a pas d'élaboration.
Ah
Ce
oui.
que tu dis là, c'est hyper important aussi, c'est juste oui, c'est bon. On n'a pas d'échange. Donc l'idée que le magasin aujourd'hui bascule dans quelque chose qui soit plus libre-service, ça va aussi dans cette fonction, puisque les échanges sont un peu moins intéressants, que les gens ont envie juste de sentir des trucs. En plus, potentiellement, avec un avis qui a été celui de l'influenceur ou des deux influenceurs qui leur ont dit que c'était bien ou pas bien, bah. On a moins d'utilité. Sortir des parfums à quelqu'un qui a juste une liste et qui te donne la liste pour que tu sortes juste les parfums, en fait, tu lui sers de larbin.
Ouais,
C'est quand
d'une
même un peu
certaine
dégradant pour
manière.
la personne qui le fait. Tu es juste bon à passer les plats.
Surtout chez Liquid. Parce que
Ah.
c'est pas le rôle, quoi.
À un moment, on continue à avoir des échanges, mais les échanges sont un peu raccourcis, ils arrivent à être efficaces. Et puis, s'il y a des gens qui sont intéressants et dans lesquels l'échange est intéressant, l'échange peut se prolonger quand même. Mais oui, c'est vrai qu'ils arrivent avec beaucoup d'a priori. On arrive un peu à désamorcer ces a priori parfois, quand même, aujourd'hui. À un moment, je pense qu'on était avec mes collègues un peu en retrait. On avait ce même truc dont je parlais tout à l'heure, cette attitude un peu à la Frédéric Malle, cette attitude un peu différente, qui n'était pas de la déférence par mépris, qui était juste je dois laisser l'espace d'autrui s'exprimer. Sauf qu'en fait, on arrivait dans ce moment-là à entendre beaucoup de choses, parce qu'aujourd'hui, on valorise la liberté d'expression plus que toute autre chose, comme on le fait aux USA, j'ai le droit de dire. Mais résultat, on entend beaucoup d'inepties, beaucoup d'aberrations, beaucoup de gens très affirmatifs sur des choses qui sont un peu fausses. Et la parfumerie, ce que j'ai appris en formant pendant quand même 4 ans, en absorbant mes 5000 heures de formation autodidacte, mais où je me les suis carrées, c'est qu'en fait, je doute, comme en psycho. À la fin, quand j'ai fini mes études de psycho, quand j'ai été psy, ce que je disais à partir de la troisième année, c'est que de plus en plus, vous apprenez à douter. Bah oui, c'est facile de faire la météo après coup, mais quand on a par exemple quelqu'un qui a l'air d'être pas bien, parler de la vie d'une personne, c'est extrêmement hasardeux, donc on apprend à parler des choses de manière un peu moins définitive. Il est vrai que l'époque est à l'affirmation rapide. Le format d'une vidéo TikTok, qui doit créer le buzz et doit créer du flux, qui doit faire 1 minute avec ses codes spécifiques pour créer de l'attention réduite, qui doit permettre de générer du flux suffisant pour pouvoir être rémunéré, fait que on va être dans le buzz, dans l'affirmation catégorique, qui est dans le truc qui est là pour faire le clash et qui va rapidement. Mais la parfumerie, se plonger dans quelque chose, essayer d'avoir un élément qui peut nous faire rêver, c'est autre chose que ça.
C'est sûr.
Les deux grandes demandes qu'on a, de gens qui ont l'air d'être, qui croient qu'ils sont originaux et qui, en fait, ça pourrait être original si c'était pas caricatural dans la répétition. Sang et pétrichor. Vous avez des gens qui viennent vous demander du sang et du pétrichor.
Quoi?
Parce que ça fait marrer. Parce qu'il y a une espèce de tendance sur les trucs, films d'horreur, de genre néo-gothique, etc. Donc on a beaucoup de demandes de sang. On veut sentir des personnes qui sentent le sang. Le côté morbide, post-adolescent, on regarde Charm. Et
Ah.
le côté.
C'est complètement fou ce que tu dis là.
Je
Je
suis
suis dérouté. heureusement que je suis assis.
Ouais, c'est ça.
Et pétrichor, vas-y, vas-y.
Et donc, ouais, et donc la note mousse, parce que ça fait rêver les gens et que les gens veulent une note mousse à tout prix.
D'accord. Ok.
Donc ça, on l'a un peu beaucoup. Moi, je me retrouve face à une parfumerie qui devient plus caricaturale, à être malheureux, à devoir répondre malheureusement difficilement à des gens qui me disent, moi, j'aimerais sentir une note de mimosa. Bah, le mimosa, il y a 15 ans, ça existait. Aujourd'hui, ça n'existe plus parce que les gens ne veulent plus que de la vanille. Et quand ils veulent des trucs bizarres, donc ils veulent du sang et du pétrichor.
Ouais.
Attention, ça peut être sympa de faire du sang et du pétrichor.
L'entre-deux, il est compliqué.
Bah oui.
Toi, tu t'es vu il y a 6 ans que tu es arrivé à Liquide. Tu t'es vu adapter ton discours, ton introduction, on va dire, de discours clientèle, comme ça, le réduire. Je veux dire, tu l'as pensé à un moment donné pour adapter à ce genre de clients ou de consommateurs en général, quoi, tu vois, le visiteur de la boutique.
Alors, au départ, non, pas du tout. Au départ, j'étais juste là pour répliquer une règle, pour répliquer des codes qu'on me donnait. Et effectivement, j'y ai cru en plus, ce principe de ce que je me suis souvent entendu dire dans les grands magasins. Après Frédéric Malle, j'ai travaillé pour une petite marque dont plus personne ne se rappelle qui s'appelle Eric Butterbo, EB Floral, le fleuriste californien de demi-mour. Et en fait, bon, bah, ça n'a pas fonctionné. Et souvent, ce que je me suis entendu dire, je dis ça, je précise que ça n'a pas marché parce que on m'a souvent dit, Thomas, tu es excellent avec les clients français, tu es super bien dans la relation client. Le truc, c'est qu'il faut arriver à le transformer. On ne peut pas juste avoir du passage sans que ça devienne à un moment des ventes. Moi, on me dit, on veut faire de la qualité, on veut avoir une relation profonde. Encore une fois, j'ai quand même des études de psy. Discuter avec des gens. Ça me va bien comme code de départ. Pendant 15 mois, je ne les ai pas retouchés. C'est au bout de 15 mois que je me suis dit, là, je suis là depuis un petit moment. Je dis que j'ai été recruté il y a 6 ans, c'était pendant la Covid. Donc, c'était quand même au moment où c'était calamiteux, les chiffres étaient mauvais de partout, puisqu'on ne pouvait pas sortir, on a fermé 3 mois. Quand on pouvait sortir, on avait l'impression qu'on risquait de mourir. Donc, les gens sortaient moins, consommaient moins. Pendant 15 mois, j'ai touché à rien. J'ai rien fait. Et au bout de 15 mois, je me suis dit, non, là, c'est pas possible. Un monsieur débarque un matin et il me dit, vous savez ce que c'est cette matière? Parce qu'il avait vu une matière dont ils avaient parlé sur Arte la veille.
Ouais.
Alors, je crois que c'était un truc comme le Nagar Mota, peut-être. Je pense que c'était peut-être ça. Hein. Cyprien, Nagar Mota, je suis plus sûr de la matière. Le monsieur, un peu le vieux prof de je ne sais quoi, un peu rabougri. Je lui dis non, je ne vois pas tellement ce que c'est. J'étais en train de faire l'ouverture de mon magasin, il était 11h15. Et le vieux tromblon me dit ah, bah, si vous y connaissez un parfum, vous devriez savoir de quoi il s'agit. Alors, on peut toujours apprendre des choses. On devrait toujours être en train d'apprendre des choses. Mais je pense, avec mon parcours, sans prétention, ne pas vraiment mériter ça.
Ouais, c'est sûr.
Et là, ce genre de vieux donneur de leçons, j'en avais eu plein. Un petit peu au printemps, j'ai travaillé donc finalement tout et pour tout 5 ans à peu près au bon marché. Des personnes qui ont un certain âge, c'est que ça génère à peu près, qui connaissent toute la vie et vous font la leçon, il vient me faire le cours. Et parce que vous êtes dans un grand magasin et que vous n'avez pas la possibilité de répondre, parce qu'on doit surtout, bien entendu, pas créer de clash, ça m'est arrivé plein de fois.
On sent que c'est
Alors,
très
il
encore
appuie.
aujourd'hui, si je peux me permettre. On sent que la plaie n'est pas refermée, quoi.
Ah, non, bah, en fait, à ce moment-là, je me suis dit, là, il faut que je modifie des choses, parce qu'ici, c'est pas possible. Sous prétexte qu'on est un bar, les gens se permettent de faire n'importe quoi, il va falloir reprendre un peu le contrôle. C'est à ce moment-là que je me suis dit, il va falloir modifier des choses. Tu passes trop de temps à discuter avec des gens pour essayer de faire des ventes, et en plus, on arrive ici en permettant de tenir des propos qui sont absurdes. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai conscientisé l'idée qu'il fallait prendre des choses, mais je m'en suis pas rendu compte brutalement. À un moment, dans chez Liquid, ce qu'on a fait, qu'on n'a plus besoin de faire puisque les gens ont accès au parfum, c'est que je retournais tous les flacons. Bien sûr, j'ai toujours demandé à David, qui m'a suivi dans ses évolutions, pourquoi je retournais les parfums? Parce que l'idée, c'est que dans un conseil, on essaie d'avoir l'attention de la personne. Et que il y avait des gens, bah, je vends un parfum qui s'appelle Pas ce soir, qui nous disaient, ah, c'est quoi Pas ce soir, et qui voulaient le sentir, qui avaient envie de rigoler, mais ça casse l'idée d'essayer de faire un conseil dans le but de faire une vente.
Bien
Ça
sûr.
participe de la fonction muséographique et cirque. La fonction vient pour se marrer. Et ça, c'est une évolution importante du parfum. Je pense que si on est tous les trois en train de discuter de parfum aujourd'hui, c'est parce que le parfum, c'était une espèce d'amélioration de notre vie. De prolongement de ça aussi, presque. Un objet qu'on avait qui fait du bien. Aujourd'hui, les gens ne veulent pas un parfum qui les élève, en majorité. Ça existe encore, mais ça devient minoritaire. Ils ne veulent pas un parfum qui leur raconte une histoire. Ils veulent un parfum qui les fasse marrer.
Ouais. C'est incroyable parce que quand tu vois le prix actuel des parfums, tu te dis, mais vraiment, tu pouvais te marrer plus simplement quand
Bah, Aqualina Pink Sugar, c'est
même.
très très bien si tu veux notre caramel. Ça
Oui.
coûte 30 € 50 ml.
Voilà.
C'est bon rendu. Il faut supporter le petit neurose, mais je trouve qu'effectivement, 30 € la part de rigolade, c'est vachement bien.
C'est moins cher que sucre noir. C'est la même chose.
C'est beau cet univers de la parfumerie où tout ce à quoi on est en train de la résumer, c'est tous les mots, les descriptifs de la parfumerie. Mais même pas de la parfumerie, on aurait du beau Saint-Honoré, des compositions qui sont jolies. La réduction au béguinçay, quoi. Sucre, vanille. Alors, avec tous les adjectifs qu'on va faire, moi, je pense qu'en fait, on devrait faire des générateurs automatiques de noms de parfums. Toutes les couleurs, tous les qualificatifs. Sucre incandescent, sucre sublime, sucre sucré, très sucré. On peut faire plein de trucs comme ça, on peut les décliner à l'infini. On va peut-être pouvoir passer à 100 000 lancements de parfums par an avec 75 000 sucres. À un moment, en fait, il y aura plus de sucre dans les parfums que dans les desserts que les gens avalent de l'industrie agroalimentaire.
De toute façon, c'est lié hein, directement. Clairement, quoi.
Et pour très cher.
Et ouais, bah oui. Alors avec l'IA, t'inquiète pas, ils vont les trouver les noms.
Thomas, du coup, j'imagine que tu dois sentir quand même pas mal de choses, parce que j'imagine qu'il y a un nombre de marques qui veulent rejoindre la boutique, ou je sais pas trop comment ça se passe, de distributeurs qui vous envoient des choses. T'as l'impression qu'on continue là-dedans, le sucré, même dans la niche, entre quelques guillemets, peut-être qu'on pourra parler de niche après. Mais t'as l'impression qu'on s'enferme là-dedans ou il y a encore une autre mode qui apparaît, juste de gros boisés qui frappent
Ça fait 15 ans qu'on dit que le sucre va baisser. Tu as deux trucs dont on dit que ça baisse, les ouds, le sucre. J'entends beaucoup dire les gens veulent plus de ouds. Et je dis toujours aux gens, encore une fois, la nuance. Les gens ne veulent plus que du oud. Les gens veulent un peu moins du oud parce qu'ils veulent aussi d'autres choses. Mais non, ils ne veulent pas plus du oud. Du oud, entendu, boisé sec, ambré, tout ça, quoi. Pas la note fécale qu'on connaît, la note hyper animale. Mais donc, ils veulent toujours du oud et ils veulent du sucre. Ça fait 15 ans que j'entends dire que le sucre va baisser et ça fait 15 ans que c'est de plus en plus sucré. On voit la contamination du sucre depuis la parfumerie grand public vers la parfumerie de niche
Ah oui.
qui avait résisté.
Ah, aujourd'hui, c'est open.
La séphorisation
Hein.
du fruité sucré boisé ambré est totale. Et ce qui est dingue, c'est que j'ai envie de dire, on va prendre quatre choses. On imagine dans un parfum qu'on élimine juste quatre éléments. Les notes fruitées, on enlève les notes vanille amandée, on enlève les notes caramel, éthyl maltol, maltol, veltol plus, veltol, toutes les molécules qui permettent d'avoir l'arôme caramel, et on élimine le boisé ambré. Combien de parfums survivent?
Ah, voilà. Pas grand-chose. Hein. Ça fait
Voilà.
revivre des espaces entiers. Il y a des arbres qui poussent dans la rue à Paris. Il se passe plein de choses.
Ah ouais. Non, mais imagine, t'enlèves ça.
Ouais.
En plus, liquide, faut bien le dire, c'est pas la plus grande victime des tendances, même si forcément on est toujours. Mais déjà enlever ça chez liquide, toi, t'estimerais qu'il y a quel pourcentage qui s'envole?
Oula.
Sachant que c'est liquide, hein, je veux dire, c'est.
Là, c'est à vue de nez, hein, mais je dirais entre 50 et 75.
Oh là là. Moi, je me suis dit, il va me dire 30%. Ah ouais, c'est dur. Hein. Franchement,
Après,
c'est
tout
dur.
n'est pas acheté dans les notes
Non, non,
fruitées.
non, tenez pas acheté,
Non, non, je
c'est
pense
pas
que
le
c'est plutôt
sujet.
des choses à sauver.
Ouais, c'est pas le sujet. Il y a des gens qui vont utiliser ces
Bien
mêmes
sûr, c'est
notes-là
pas le
et
problème.
réussir quelque chose. Mais le global, disons quoi, le
L'idée, c'est
global,
juste
c'est.
que malheureusement, souvent, ce n'est pas tellement innovant. On ne fait pas une note hyper innovante, on ne fait pas un parfum hyper créatif. Et c'est quand même le révélateur d'un truc, et que de plus en plus, j'ai le sentiment que ça se divise en deux, que ça se clive. Il y a la répétition de ces notes qui se veulent des notes originales et qui ne le sont pas. Et puis, il y a une résistance quand même de gens dans le bruit qui se disent, puisque de toutes les façons, tout le monde parle tout le temps. Il y a 2 ans, j'aurais été plus pessimiste. Arsène m'a entendu le dire, j'étais pas certain à ce moment-là qu'il resterait de la place pour de la différence olfactive,
Oui.
pour qu'elle puisse continuer à exister. Je suis un peu plus optimiste. Il y aura toujours une grande majorité de choses qui seront peut-être pas terribles, mais il me semble qu'il y a plus de place pour de la différence. En gros, ceux qui portent des trucs vraiment différents se disent, de toutes les façons, si quelqu'un me dit qu'il n'aime pas mon parfum, vu que moi, globalement, pense pas mal de gens. J'aime pas les parfums qui sortent aujourd'hui, ce que les gens portent, je m'en fous au final. Et j'ai envie de dire tant mieux. Comme s'il y avait une forme de bah, puisque celui qui va porter le parfum type Axe masculin trouve que son parfum sent bon et que moi j'aime pas, bah, moi j'ai le droit de porter le truc qu'il trouvera bizarre sur moi.
Ouais.
Heureusement.
C'est un peu la mentalité contre-culture. Hein.
Oui, exactement. Exactement. Une forme de vraie différence avec des gens. En fait, les gens, les mots que j'entends dans le magasin, c'est je veux pas sentir comme tout le monde. Et aussi, moi, je mélange les parfums. Ça, on ne
C'est
sait pas ce
dur.
qu'ils mélangent, mais qu'est-ce que vous en pensez? Je leur dis toujours, à partir du moment où vous les achetez, vous faites ce que vous voulez. Si vous avez envie de mélanger des brocolis avec la mousse au chocolat, moi, vous savez, vous faites ce que vous voulez. Je m'en
Disclaimer.
moque. Mais donc les gens, dans la volonté d'être narcissiques, adorent mélanger des choses, n'importe comment, mais les mélanger quand même, ils font ce qu'ils veulent. Tout le monde est un peu un artiste. Très bien.
Mais ça montre une créativité, quoi.
Exactement.
Et c'est sûr qu'en mélangeant, ils s'en tireront comme personne d'autre. Ça,
Ben
pour le coup, je peux
ça c'est
enlever.
gagné.
On arrive à faire vivre quand même des parfums et des marques qui sont intéressantes chez Liquid. On arrive même plutôt bien à les faire vivre. Mais si on regarde les lancements qui ont lieu, je vous demandais les garçons d'imaginer un truc, vous regardez ce qui sort aujourd'hui en parfumerie et vous imaginez ce qui sortait il y a 15 ans en parfumerie.
Ah, pas
Au même niveau, j'entends. Il en reste de la qualité. Mais on est obligé de constater que les sucres noirs, sucres dorés, sucres roux, sucres blonds, Corcovado et autres sont en train de devenir quand même extrêmement importants.
moi, c'est un truc que j'ai jamais compris. Souvent, on parle de ça parce que quand tu crées ta marque, moi, je pense que l'une des raisons, c'est pas seulement la tendance, c'est le nombre de marques naissantes, indépendantes qui sont, alors, soit mal dirigées, soit au contraire, des gens qui ont fait le calcul que non, je vais faire comme tout le monde. Ils viennent comme ça, ils polluent l'espace du parfum, l'industrie, et ça crée un espèce de flux de ce que tu dis, tu vois, que tu te retrouves avec 70% de sucré ou autre, hein, c'est pas que des sucrés, mais pour moi, la part des petits indépendants, elle est gigantesque aujourd'hui.
Le coupable, les petits indépendants ou les maisons de compo derrière?
Moi, je pense que la culpabilité, elle revient
Alors,
à l'idiotie. T'es bête, tu connais rien, t'as voulu t'inventer être un
oui,
directeur artistique, et à cause de ça, on te vend tout et n'importe quoi en labo.
je dirais
Dis.
que pour arriver, encore une fois, je vais avoir un raisonnement de psy, pour arriver à un niveau de faiblesse aussi accru. Il faut que tous les acteurs se réunissent pour que ce ne soit pas terrible.
Ouais, c'est vrai.
Alors, effectivement, il y a les marques qui supposent que le consommateur veut du sucré. OK. Il y a les distributeurs, parce que je sais qu'on leur. Et je travaille pour un distributeur, qu'on accuse les distributeurs de façonner également la demande.
C'est
Je
vrai, ouais.
préciserai que vraiment pas parce que je travaille pour ma boîte, mais parce que c'est vrai, nous on intervient très peu là-dessus. On préfère ne pas prendre des marques en disant qu'elles ne sont malheureusement pas ce qui permettra de les vendre suffisamment et de les satisfaire au départ que de vouloir les modifier. On ne se permet pas de faire cette intromission-là. Mais d'autres distributeurs le font. Les distributeurs de certaines contrées géographiques principalement, les USA parce qu'ils sont puissants, ils ne se mêlent pas que de géopolitique, ils se mêlent aussi d'une forme de géo-parfumerie avec leur code. Donc ils savent ce que leurs consommateurs, leurs clients veulent. Le Moyen-Orient. Pour le Moyen-Orient, une petite blague, on avait fait un petit truc, une anecdote plutôt qui est intéressante. Quand on a lancé The Night chez Frédéric Malle voulait au départ que les fourreaux soient des fourreaux métal. Parce qu'il ne voulait pas les fourreaux dorés, parce qu'il trouvait ça vulgaire et qu'il ne voulait pas faire comme tout le monde. Un mois après le lancement de Night, note interne, nous rapatrions tous les fourreaux métallisés. Les fourreaux dorés vont arriver parce qu'en fait, les distributeurs du Moyen-Orient refusent les fourreaux métallisés. Donc, quand on vous dit qu'il faut des flacons dorés, oui, on les fait, mais parce que sur ce marché-là, c'est la condition sine qua non, quasiment. Tu n'as pas de doré, tu ne rentres pas au Moyen-Orient.
Bah, c'est culturel, tu peux rien faire contre ça.
Tu ne peux pas te battre.
Voilà,
Parce que
tu peux
tu
pas te
veux, pour
battre.
vendre tes parfums, être distribué.
Exactement.
Les Japonais vont demander des choses un peu douces. Les Coréens, les Chinois vont avoir leur desiderata également. En réalité, en France, on n'a pas tellement cette vision. On a quand même cette vision de la créativité. On voudrait essayer de maintenir cette créativité-là. Mais donc, il y a quand même les distributeurs qui orientent une forme de goût, ok. Mais on oublie toujours un élément quand même. C'est qu'à la fin, un produit se vend parce qu'il y a un consommateur qui l'achète. Pourtant, je vous dis que la qualité baisse, mais on continue. Plein de marques, malgré tout, continuent à faire des lancements intéressants. Plein de marques continuent à faire des lancements qui sont jolis. Problème, ces produits-là, ces parfums-là, les objets créatifs ne trouvent pas preneur. Moi, il y a toujours ce truc qui me fait rire et je le dis, et je l'ai dit il y a 15 ans quand j'étais passionné de parfum, je le disais. Ah, c'est beau, pourtant ça s'arrête. Depuis un peu au moins d'une dizaine d'années, maintenant je dis, non, les enfants, vous utilisez les mauvais mots de liaison en français. Non, c'est pas bien pour la syntaxe. C'est beau, donc ça s'arrête. C'est original, donc ça s'arrête. Voilà. Parce que le
Exactement.
consommateur ne veut pas du beau ou de l'original, malheureusement, assez souvent. Et même pire, vous avez deux formules. Une formule pas chère du tout, d'un produit mainstream, type Hugo Boss ou DSL ou autre. Et vous avez une formule avec plein de très beaux naturels et des synthétiques qui peuvent valoir très cher, des très beaux muscles, des boisés intéressants, de nouvelles molécules. Vous faites des efforts. La formule qui a le plus de chances de trouver des consommateurs qui vont l'apprécier, bien sûr, il y a des exceptions. Je n'essentialise pas. je donne une tendance générale. On parle de statistiques, on parle de mouvement de masse, de corrélation. Plus la formule est chère, en général, moins elle trouve de consommateurs.
Ah oui.
Qui n'était pas le cas dans les années 60.
Ah, c'est pas la même époque, il n'y avait pas TikTok.
Le vétiver, qui est un truc que j'adore et qui a été institutionnalisé comme étant la note de référence pendant deux générations d'hommes, devient la note ringarde. Le vétiver, c'est magnifique. Isabelle Doyen dit, vous prenez juste une essence de vétiver, vous en prenez 10%, vous le mettez dans 90% d'alcool, vous avez l'un des plus beaux parfums au monde. Je suis complètement d'accord avec elle. Et bah, le monde, jeune d'aujourd'hui, n'est globalement pas d'accord avec nous.
Mais moi, ce que, à chaque fois, j'ai plein d'amis. Enfin, par rapport à vous deux, je me considère assez jeune.
Oh, waouh, ça c'est vache, ça c'est vraiment, c'est
Il est
méchant.
méchant, il est dur, Arsène.
Et
Ouais,
mes amis, souvent, ils disent ça sent vieux.
ah
Ouais,
bah
bah,
oui, c'est
sent vieux.
l'expression.
Et je dis, mais ça veut dire ça sent bon. C'est ça que vous vous rendez pas compte.
C'est ce que je leur dis. Bah oui, c'est normal. Il y a des matières très chères dedans, plein de beaux naturels. Ce sont des matières auxquelles vous n'avez pas été exposé dans votre génération. Parce qu'il y a un truc qu'il faut comprendre. Bon, Arsène, toi, tu fais un peu œuvre d'anomalie, si tu veux, parce que tu cherches à te cultiver dans le domaine, donc tu as été fouillé avant. Mais ta génération est une génération qui n'a pas été exposée à ces matières chères, à ces formules chères. Donc elles apparaissent pour être bizarres, pour sentir le vieux, puisque ce n'est pas dans les codes de ta génération normalement, effectivement. Et moi, je leur dis donc, hein, ah oui, vous trouvez que ça sent le vieux, c'est normal. C'est que la formule vaut de l'argent, elle a pas mal de naturel, étant donné que, pour faire simple, en un siècle, tous les 10 ans, on perdait 10% naturel dans les formules. J'exagère un peu le trait, mais ça marche à peu près quand même. Bon, on arrive à des formules qui sont quasiment 100% synthétiques aujourd'hui, presque, en parfumerie grand public. Ben, c'est normal de trouver que ça sent vieux. C'est vrai. Ça sent. En fait, ce que les gens appellent vieux, c'est le beau.
Ouais, ça sent une autre époque, et dans cette époque, on faisait du parfum. C'est simple, hein. Comme tu dis, l'absence de naturel, hein.
Ouais. Ouais, l'un des éléments majeurs quand même là-dessus, parce qu'on fuck tous les codes. Il y a des parfums grand public qui sont plus beaux que les parfums de niche aujourd'hui, bien entendu.
Bien sûr.
Même si heureusement on arrive quand même à faire un peu plus de créativité en niche que, mais pour combien de temps? J'espère qu'on pourra continuer à faire mieux que le grand public.
Espérons.
C'était le moment où il y a eu Bois d'Argent et Dior. Déjà là, il y avait un truc qui était fucké dès le départ. Je préfère 1000 fois Dior à Bois d'Argent.
Ouais.
Je trouve la formule de Durham plus niche que la formule de Bois d'Argent.
Oui, c'est pas faux. C'est pas faux, je suis d'accord.
Qui est le plus créatif? Durham.
Plus clivante même.
Ouais. Parce qu'en fait, Bois d'Argent, bah, c'était votre discussion dernier podcast.
Ouais.
On parle tout le temps, et ça, c'est le gros truc de la parfumerie aussi, c'est bien sûr de valoriser les éléments positifs, c'est normal. Mais on passe son temps à parler de l'iris et de l'encens. Et on oublie de dire que c'est aussi un énorme ambroxe, donc un énorme cèdre contemporain de déodorant, qui est super, mais qui est utilisé au départ là-dedans, et quand même pas mal de vanilline, donc
Ah,
avec son effet sucre
énormément.
vanillé.
Ah, c'est un gros ambré, bien sûr. Voilà. Que je déteste.
Ouais.
J'aime bien le dire.
Ça fait longtemps que tu l'aimes.
Moi aussi, je l'ai toujours trouvé chiant, et qu'il pétait plus haut que son cul.
C'est dit.
Voilà. Vive le noir! Et merde pour Bois d'Argent. Mais bien entendu que Bois d'Argent a du succès, parce qu'en fait, un discours de parfum singulier, d'originalité, sur un jus qui n'est pas tellement, bah on coche toutes les cases de la réussite.
Ah, bien
Ah bah.
sûr. Il y en a plein qui l'ont bien compris et qui refont ça. Mais je pense qu'on a fait le tour et je pense que s'arrêter là-dessus, c'est pas mal. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Ouais. Mmh. Ça fait un
Thomas,
moment qu'on est là,
t'avais...
hein.
Ouais, ça fait un petit moment. Je sais pas si Thomas, tu avais des choses en plus qui me viennent en tête de nos discussions, la boutique. Moi, ce que je comptais dire avant de finir, en tous les cas, c'est aller chez Liquid et
Ouais.
vous verrez. Racontez pas trop votre vie à Thomas.
Non, Thomas est agressif maintenant, faites attention.
Alors,
Faites
de toute
attention.
façon, Thomas va pas y être, surtout. Thomas, a priori, sort du magasin dans les prochains jours
Oh!
pour me
Incroyable.
consacrer au développement olfactif sur les marques en interne et pour pouvoir faire de la formation auprès des points de vente.
D'accord.
Donc, je passerai chez Liquid, mais j'y passerai en tant que collègue de la personne qui travaille avec moi et qui est là, qui est Fabien. Alors. Qui est hyper cool, Fabien. Mais s'il vous plaît, qu'il ne lui tienne pas la jambe pendant 3 heures, ouais.
Soyez
Quand
gentil
même.
avec Fabien.
Soyez gentil avec Fabien.
Moi, j'ai eu une de mes meilleures expériences clients chez Liquid. Je tiens à le dire, on l'a déjà dit dans des vieux épisodes. Moi, j'ai toujours apprécié ce magasin. Je trouve que on est arrivé avec le Zen comme deux connards. On s'est dit, d'abord, faut dire la vérité, le vendeur nous a regardé et s'est dit, bon, ça va être un dur moment, mais je suis vendeur. Et en fait, ça s'est décontracté en deux phrases. Et il a vu qu'on était des vrais passionnés et ça a été magnifique. On est resté je sais pas combien de temps. Et pour honorer bien sûr la boutique, on n'a rien acheté.
Bah oui, bien sûr. Oui, mais il y a des
Et
fois.
c'est pour ça que moi je valide tout ce que tu dis en fait. C'est parce que moi j'ai ce souvenir que c'est une évidence. De toute façon, tu es là, tu vas orienter toute une conversation. Tu vois, c'est normal, ça fait partie de la vente, particulièrement chez Liquide. Mais il y a une problématique derrière, il faut vendre. Il faut vendre. C'est pas facile, tu vois. C'est dur. C'est un modèle économique pas facile, quoi.
Je dirais que le truc qu'il y a, c'est que, alors, il y a des fois où on ne vend pas et ce n'est pas grave, on s'en fout. Mais l'idée quand même à la fin, c'est qu'il faut que ces marques vendent parce que
Ouais.
et on doit nous payer un loyer,
Ouais.
on doit entretenir une entreprise et les marques qu'on défend et les marques avec des objets qui ont parfois une valeur artistique qu'on a envie de défendre sont
C'est
des
vrai.
objets qui, pour qu'ils existent, doivent avoir des marques qui sont viables. Parce que là, on est en train de faire un échange qui est un échange hyper sympa et c'est cool. Mais à la fin, quand on a certaines marques qui doivent défendre leurs intérêts, le banquier qui est en face, la boîte de ses jus, il n'en a rien à foutre. Il n'a rien à que ça
Exactement,
colle.
exactement. Si tu vends pas, tu vis pas. C'est pas compliqué. C'est la règle pour tout type de marque au monde. C'est du commerce. C'est pas facile.
Et peut-être que ceci est un peu notre faute, justement en noyant beaucoup les choses quand même, dans un discours extrêmement qualifiant autour de la dimension artistique. C'est peut-être aussi le défaut des marques, qui dès l'objet artistique qu'on regarde, comme on va regarder un Dalí, elle participe un petit peu peut-être, c'est aussi peut-être là pour partager la geste parfumée artistique. Ouais, c'est cool. Et moi, je préférais que les gens sentent bons plutôt qu'ils sentent mauvais. Moi, je préférais ne pas vivre le cauchemar qu'on vit aujourd'hui quand on se promène dans la rue. Oui, Baccara, c'est à toi que je pense, et tu n'es pas le pire. Bah, c'est bien quand même de se rappeler que il y a un deal, et que le deal, c'est que pour que les gens puissent sentir bon, il faut que les beaux objets soient suffisamment portés. Pour qu'ils soient suffisamment portés, il faut qu'ils soient suffisamment achetés.
Exactement. C'est un chouette mot de la fin, moi je trouve. Faut cette façon, c'est ça, il faut supporter les marques. Vous aimez des marques, achetez-les. Achetez-les. C'est pas compliqué.
On le dit beaucoup, on le dit sur Parfum d'Empire, on le dit pour d'autres marques aussi. Bah ouais.
Ouais. Faut les acheter. Ça paraît con d'être dit comme ça, parce que si je l'aime, je vais l'acheter, mais la réalité du terrain, c'est pas vrai. Il y a beaucoup de marques qui sont appréciées, qui ont une espèce de validation générale du milieu des passionnés, mais les ventes ne suivent pas. C'est pas que ça suit pas, mais ça pourrait suivre beaucoup plus, quoi. On est là à décanter, à être radin entre guillemets, hein. Je veux dire, chacun il a ses moyens, hein, tu vois. Mais je pense que pour supporter des
Bien
marques, il
sûr.
faut mettre la main à la poche, tu vois. Et les boutiques, hein, c'est pourquoi nous on a commencé une série sur les boutiques, c'est parce que les boutiques, ils ont besoin des ventes. Il faut vivre. L'expérience client, c'est la boutique, c'est pas TikTok. Tu pourras pas avoir un bon conseil ailleurs que dans une boutique.
Non, et ça consécute ce truc-là, et j'irai encore plus loin. Si vraiment le parfum, c'est un objet de passion, puisqu'aujourd'hui on a un effet d'appel d'air gigantesque, comme jamais, d'arriver de gens qui disent « Moi, je m'intéresse aux parfums. Moi, j'aime les parfums. » Si on aime vraiment les parfums, là, je me rends compte que je vais vraiment avoir un discours de vieux con. Il faut prendre des notes sur ce qu'on sent. Il faut essayer de structurer sa pensée. Il faut se rendre compte qu'on est tout petit face à l'énorme tas de choses qu'il y a à sentir. Il faut essayer aussi parfois de se structurer. On a plein de gens qui arrivent en voulant sentir les derniers, qui sont capables de faire. Le nouveau consommateur, l'amateur 2.0, il est moins intéressant que vous. Il vient en faisant du name dropping de tous les derniers lancements, de toutes les marques, mais il n'a pas de culture olfactive
C'est
réelle.
ça, c'est ça.
Il n'a pas de structure mentale pour comprendre ce que c'est que la généalogie des parfums. Et ce qu'on leur dit beaucoup, ce qui est étonnant pour une marque comme Liquide, c'est qu'on leur dit, si vous vous intéressez au parfum, il y a deux choses. Il va falloir lire, et on ne peut pas se plaindre qu'il n'y ait pas du contenu aujourd'hui. Il y a des blogs, il y a eu au parfum, il y a né. Si on aime le parfum, on prend de la mesure, et c'est aussi se cultiver donc en lisant. Fragmentica, certains
Ouais.
échanges qui sont quand même hyper intéressants, où des gens arrivent à raconter des choses, à raconter des moments, à raconter quels sont leurs ressentis à travers de leurs souvenirs ou d'impressions que ça leur donne. Et à les sentir, c'est tout con, les grands publics,
Ouais.
parce qu'ils sont peut-être pas en bon état, ils sont maintenus comme ils peuvent être maintenus en l'état de reformulation des réglementations qu'il faut passer. Mais quand même, on arrive à avoir une bonne appréhension que la parfumerie ne se résume pas à ce qu'elle est aujourd'hui quand on se plonge à ce qu'elle a été pendant à peu près 150 ans.
Exactement. On est bien d'accord.
Bah ouais.
Ah,
Et
ça
vive
y
Opium, le
est.
plus beau parfum au
Vivopium.
monde.
Ah, mais c'était ton nom, toi, si je me trompe pas.
Oh,
C'était ton
ben
pseudo?
oui, tout à
Ouais,
fait.
ça je percute là. Ah ouais,
Ouais.
opium. Opium, quel parfum. Oh là là.
Et
Incroyable.
tu vois le truc qu'on a parfois comme réflexion, parce que chez Liquide, on a un flacon d'opium. Donc les gens sont surpris. Ils sont là, pourquoi il y a un flacon d'opium?
Ouais,
Bah
ouais.
parce que ça remet les idées à leur place. Opium, c'est le moment où à la fois c'est grandiose et spectaculaire, et c'est déjà le parfum qui a tous les défauts de la parfumerie d'aujourd'hui.
Ouais.
Faire une formule pas chère parce qu'il faut l'écouler au maximum, qui permettra de la surconcentrer. Ce qu'on appelait une autre parfum, était une autre toilette, était déjà quasiment était une autre parfum à plus de 18%. D'un parfum spectaculaire avec des matières pas chères, mais qui devait donner un effet spectaculaire et qui devait créer un impact maximal sur un parfum grandiose. Quand on me dit aujourd'hui, parfois dans le magasin, ah, mais moi je n'aime pas le patchouli dedans, je me dis, bah, c'est dommage pour vous en fait. C'est dommage si vous n'êtes pas capable de passer le stade, même si la formule d'aujourd'hui n'est pas en très bon état, de vous rendre compte que si vous bloquez sur une matière pour comprendre le chef-d'œuvre, c'est comme si on disait pour Mona Lisa, pour la Joconde, bah quand même, elle n'est pas très glamour et tout ça est un peu trop brun. Et puis bon, son petit sourire un peu narquois, là, c'est bon, c'est pas assez expressif. C'est quand même pas terrible, quand même, hein, la Joconde.
Ah, c'est dur. C'est dur. C'est le constat, c'est vrai. Hein. C'est vrai ce que tu dis.
Tout est fucké à partir de là, parce qu'on commence déjà à faire des formules moins chères et plus vulgaires. Mais en même temps, qu'est-ce que c'est grandiose? Et ça permet de dire, bon, il y a tout ce qui existe aujourd'hui, mais regardez un peu ce qui se passait derrière, c'est pas mal non plus.
Exactement. Ouais, exactement. Tu veux faire du pas cher, mais tu peux faire du beau.
Vif Fragonard. Sur le parfum, il y a un truc qui était important, c'était les maxi plaisirs à petit prix. Les gens qui disent, oui, mais les parfums sont chers, oui, les parfums sont chers et les parfums sont trop chers. Mais quand on est malin, on arrive toujours à trouver des trucs qui tiendront peut-être un peu moins bien, mais c'est aussi le regard où on sait le porter. Je suis convaincu que Monoprix, que Roger Gallet arrivent à faire des trucs qui sont très jolis.
Bien sûr. Ouh là là.
Il faut juste être malin.
Bah, c'était un épisode rempli, mais très intéressant.
Ouais,
J'espère que
bien sûr.
à tout le monde. On a peut-être fait 8 mots de la fin, mais
Ouais.
je pense qu'on va devoir finir par
Oui.
couper quand même un
Oui.
jour. Même si on pourrait parler des heures et des heures, mais c'est toujours intéressant.
Bah, Thomas,
Bon,
un
bah,
gros
cool.
merci.
J'étais ravi.
Gros merci
Ouais,
pour cet
merci,
échange,
Thomas.
pour avoir nous avoir accordé du temps dans un temps qui est très très précieux. Mais merci d'être passé, entre guillemets, il n'y a pas d'endroit, mais c'est plus à
Merci
nous de
beaucoup,
passer la
Thomas.
prochaine fois. Et puis tu salues tout le monde chez Liquide, vraiment très sincèrement. C'est une boutique que nous on aime depuis le début. Et on espère longue vie à Liquide, quoi, tout simplement. Hein. Et à toi.
Merci beaucoup, c'est pas sympa. Merci.
Allez, Arsène, moi
Je
je vous
passerai le
kiffe.
mot.
Salut
Ciao.
Thomas, à bientôt.
Salut.
Ouais, salut Thomas, merci.